Bienvenue au Polysécur, un épisode un peu plus technique. Je suis avec Frank.
Oui, bonjour Nicolas. Merci encore de m'inviter pour ce nouvel épisode.
Ravi de te rejoindre. Oui, tout à fait. Et de toute façon, tu as généré la question avec laquelle on va aborder aujourd'hui, le cloud privé, puisqu'on en parle beaucoup, surtout dans l'appareil gouvernemental, mais de façon mondiale aussi, c'est un sujet qui est abordé parce que les gens ont l'impression que ça règle un problème ou une inquiétude qu'ils ont. Et je suis pas tout à fait convaincu que ça arrive exactement à la satisfaction de leur préoccupation.
Oui, alors c'est très drôle ce que tu me précises. Effectivement, j'apprends que à la suite du dernier épisode, il est certain que j'ai amené ce sujet-là parce que, comme tu le sais, de mon franc-parler, il me fait doucement rire, en fait. C'est exactement le point essentiel. Je vais peut-être pas encore me faire des copains sur cet épisode-là au cas où, ou peut-être beaucoup de copains si effectivement ils sont faits, mais le cloud privé, pour moi, c'est comme si tu étais dans ton fameux CTI ou dans ton data center d'origine, ce qu'on appelait en fait effectivement data center on-premise, sauf qu'on a appelé ça comme étant cloud privé, parce que désormais, on pense essentiellement que, comme le mot cloud a aujourd'hui, ou le mot info nuagique que j'aime un peu moins pour le coup, mais on va dire le mot cloud a aujourd'hui, tel qu'on l'entend, c'est que cloud public, ça sous-entend un certain nombre de règles. Et les règles, on en avait déjà parlé dans l'autre épisode, c'est la scalabilisation, le fait d'avoir des multi-régions, d'être géolocalisé ou géré en termes de backup et compagnie, que ce soit le Z-Géo ou le LR-Géo, c'est-à-dire autant dans le propre pays que tu es ou évidemment au travers de la planète que tu peux. Et à aujourd'hui et à date, comme on l'avait répété, il n'y a que Microsoft, Google. Alors Google pour une partie au travers des différents services, des concepts, hein, le fameux IaaS, PaaS, SaaS, mais effectivement Microsoft, Amazon, effectivement les nouveaux venus, ou en tout cas ceux moins connus, mais il faut savoir que ça y est, Alibaba a ouvert le fait qu'on puisse s'inscrire et être sur Alibaba au niveau occidental, puisque c'était encore, il n'y a même pas encore 6 ou 8 mois, impossible pour des gens comme nous au Canada de s'ouvrir un compte, hein. Fallait être dans la zone chinoise ou la zone Eurasie, on va dire. Donc là, ça y est, Alibaba est ouvert, mais je peux parler aussi d'Oracle, je pourrais parler d'IBM, bon, un petit peu plus quand même Enterprise. Et donc, tout ça fait que si on reprend évidemment encore une fois les deux gros protagonistes, puisque je mets toujours dans le côté IaaS, la notion de Google est quand même là, mais moins présent évidemment, ou moins connu que la partie AWS et Azure. C'est pas que je dis que GCP est moins bon, bien au contraire, ils ont toutes leurs forces sur un autre de bas, mais c'est pas leur objectif par défaut. Ils sont pas rentrés dans la guerre en fait, ou en tout cas dans une notion de marketing comme peut l'être AWS ou Microsoft. Le fait est, c'est que quand on reparle après de cloud privé, le fait est, c'est que le cloud privé, en toute logique, c'est que ça pourrait être évidemment le pauvre data center ou la pauvre marque qui se fait un data center, mais qui n'est pas aussi puissant que ces affaires-là. Donc, il faut faire attention, et la nuance et la zone est grise, parce qu'un OVH, qui est quand même déjà une grosse entreprise que tout le monde connaît, puisqu'elle est arrivée aussi au Canada, même si elle est française, comme Ikula, Jules André Gavetti est un ami, d'ailleurs, lui aussi est assez connu en Europe et en France pour ça, et ont été un des prémices depuis les années 2000 là-dedans. Si je prends des fois des registrars qui ont un petit peu d'ailleurs, permets-moi l'expression, le fesse entre deux chaises, entre je fais de l'hébergement, j'ai des data centers, mais je dépose aussi des noms de domaine. Donc les gens s'y retrouvent plus parce qu'on ne sait plus trop qui héberge ou pas héberge. Ces gens-là sont quand même considérés des clouds privés. Mais ce n'est pas des clouds privés, c'est des data centers privés. Et à l'époque, pour déposer ton site web ou déposer un CSM, il n'y avait pas du IaaS, SaaS, PaaS comme on l'entend au niveau des ressources. C'était simplement que tu achetais un petit coin de disque dur, comme tu achètes un petit coin d'un appartement quelque part où tu vas le louer, pour te dire j'ai un serveur malheureusement non dédié, puis que j'ai plein de sites internet là-dedans, puis on va te donner une IP, tu as un petit cPanel ou peu importe le logiciel que tu as en face, et puis ça va te permettre de manipuler évidemment ton point. Là où on va plus loin, c'est que ces gens-là ne peuvent pas te proposer, comme peut le faire évidemment Amazon ou Azure, le fait de te monter des VM, le fait de te monter des web services, le fait d'avoir évidemment tout ce qu'on connaît de l'infrastructure que ça fait. Et c'est là où arrive évidemment le cloud privé tel qu'on l'entend, c'est que les gars étant adorateurs de la partie évidemment de ce qui était dans le cloud public et du vrai ce qu'on appelle cloud public, donc Microsoft, Amazon, encore une fois je me stague à ce que c'est de là, bah, automatiquement, ce serait cool d'avoir la même chose, évidemment, on-premise. Et c'est là d'où vient, évidemment, le terme, entre guillemets, de cloud privé, ou le vrai cloud privé, qui est de dire Azure, comme AWS, vient de proposer ou de permettre d'avoir que ce qu'ils font, évidemment, dans le public, viendra directement à ton chez-toi, branché, évidemment, dans ton data center. Mais c'est pas si simple que ça.
Non, vraiment pas aussi simple que ça, parce que, un, tu as abordé l'élément d'élasticité qui, techniquement, dans les CTI, existe depuis déjà longtemps. C'est juste que là, on n'avait pas de recette préfaite. Je pense que c'est ça un peu là, que les gens, quand ils abordent dans le fait, c'est Outpost et Azure Stack, que tu achètes une chose préfaite et tu mets chez vous une solution qui va supposément gérer plus de choses automatiquement pour toi que si tu avais décidé de vraiment le monter toi-même. Là.
Alors, effectivement, comme tu le précises, AWS, comme Microsoft, comme d'ailleurs Google, hein, ont fait leur... ils n'ont pas réinventé la poudre, et comme on l'a dit au dernier épisode, et comme ça faisait référence à la belle présentation... Non, je ne veux pas me faire genre de truc, mais à la présentation Sécur, c'était plutôt Sécur que je voulais dire au-delà de ma présentation, mais à la incroyable présentation Splinternet, de préciser qu'évidemment à qui appartient Internet, bah, automatiquement, comme on l'a vu, il n'y a rien de magique. Et encore une fois, le rien de magique fait que bah, ces gens-là ont dû fabriquer ou se dire bah, nous, ce qu'on monte en data center pour nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de le réduire ou comment on peut le réduire pour arriver à que ça soit plus ou moins acceptable et plus ou moins évidemment opérable et installable évidemment dans les CTI ou les data centers on-premise des clients. Donc effectivement, tu mentionnes AWS à son outpost, comme un avant-poste hein, qui est son long. Azure, c'est Azure Stack, parce que c'est des stacks, ils n'ont pas réinventé la poudre, c'est des 2-4 rues qui sont montées, j'expliquerai après coup. Puis Google, c'est Google Anthos. Google Anthos aussi a évidemment son point. Grosso modo, à aujourd'hui, ce qui est complètement aberrant dans ce que j'entends et de la confusion au niveau du cloud privé, c'est de dire, et moi je pars du requis là, du précepte qu'on est d'accord dans cet épisode, je omets et je défais le côté de dire, quand je vais parler de cloud privé, c'est un cloud public que j'amène dans mon data center. Je ne parle plus de cloud privé en disant que je vais m'installer chez OVH ou je vais m'installer chez Ikula ou je vais m'installer chez 1&1 ou chez Digital Ocean ou peu importe. Parce qu'effectivement, ces choses-là sont dédiées sur des choses assez restreintes ou assez précises et n'ont pas les mêmes services que les services qu'on connaît du cloud public. Au-delà même du cloud public, l'élasticité, la scalabilité de pouvoir monter en plus en puissance au format de autant à temps que tu vas utiliser les services. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à chaque fois qu'une zone d'opération est installée, quand Microsoft, par exemple, s'est installé à Québec, il faut savoir que du côté Azure, c'est quand ils appellent un data center, c'est trois gros data centers, en fait, qui en fait qu'un. Parce qu'ils ont toujours la fameuse triplette de localisation déjà interne, qui fait qu'en fait, c'est comme si c'était du mirroring à trois. Et évidemment, c'est du data center. Et parce qu'ils arrivent en plus, bah, AWS est à peu près dans les mêmes notions, mais on arrive à une virtualisation qui approche les 94%. Je ne sais pas si tu t'imagines. Donc évidemment, moi, la dernière information que j'avais fin 2019, demi-2020, c'est que quand même un data center qui, je crois, a quatre gros systèmes de baies avec toutes les machines dedans, et bon, bref, on n'a pas non plus tous les détails. J'ai des photos, j'ai des présentations, on pourrait, un de ces quatre, évidemment, mais là, c'est un podcast, il n'y a pas de visuel, donc ce n'est pas non plus, évidemment, facile, mais il est clair que ce que les gars disaient au niveau de Microsoft, c'est qu'ils interviennent physiquement en termes de réparation que quand c'est 50 machines qui tombent en panne. Donc, il faut arriver à 50 bécanes qui tombent en panne pour qu'ils puissent enfin envoyer quelqu'un pour se dire « Bon, on va peut-être faire quelque chose et on va peut-être corriger. » Parce qu'il est suffisamment intelligent et virtualisé pour aller tourner autour de ses affaires. C'est certain qu'arriver à ce niveau-là d'abstraction, arriver à ce niveau-là d'automatisation, c'est un tel, on en avait parlé un tout petit peu après la première épisode, c'est tellement fabuleux de savoir comment c'est fabriqué que c'est évidemment incroyable. Donc, c'est sûr que tout ça amène, et Microsoft comme AWS se sont retrouvés de bord en disant, mais en plus, on a le problème de la souveraineté des datas. C'est exactement, et surtout, mon explication de ma présentation au Sécur. Comme les gens sont totalement omnubilés par cette aberration de mettre des data à l'endroit de la souveraineté du pays, ce qui, je rappelle, est complètement une hérésie avec les Five Eyes et Neuf Eyes et les 50 Eyes, surtout même avec du VPN et avec évidemment les WP et autres. On est d'accord, parce que les pays se partagent les logs, se partagent les points et que c'est complètement débile. Mais que ça fait du bien de savoir que c'est juste à côté de chez toi parce que ça fait du bien d'être à côté de chez toi. Bah là, je vais casser une bulle peut-être et c'est là où je vais me faire des pas copains. Ils sont pas été idiots, Microsoft et AWS. Vous voulez qu'on vous amène le code public chez vous? Eh ben, on va vous fabriquer notre petit truc, puis on va vous faire le payer super cher. Parce que vous voulez qu'en plus, on vous fasse évidemment quelque chose et vous voulez acheter notre façon de faire et notre logiciel. Parce qu'en fait, ce qu'on achète, c'est le logiciel front-end que, évidemment, on a dans le cloud direct. Ce que vous achetez au-delà du matériel, c'est que vous achetez simplement la visibilité du portal Azure ou du console AWS. Et ça, pour l'avoir chez vous, ben, vous allez en dépenser sévère, puisque aujourd'hui, un 4 nœuds qui est l'origine, hein, ça marche par des nœuds. Hein, si je prends l'Azure Stack que je connais beaucoup le plus, mais l'Azure Stack aujourd'hui, c'est une grosse énorme baie qui mesure 2 mètres, qui a évidemment des deux U à l'intérieur et que c'est 4, comme on les appelle, 4 nœuds. Puis après, avec tous les aspects réseautiques qu'on connaît, BGP, BMC, les switches et compagnie, avec tout ce qu'il y a autour d'installation. Puis ça, quand vous l'achetez, un 4 nœuds, c'est $400,000. Mais ce que vous achetez à $400,000, c'est simplement le fait d'avoir l'intégralité de... Allez, je vais me casser une bulle aussi auprès de Microsoft, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va pas faire, mais c'est quoi? C'est 22 VM multipliés par le nombre d'hyper-V que vous allez mettre dans vos nœuds, avec évidemment toutes les DLL et les NuGet et toute la partie Lego qu'ils ont créée à l'intérieur, qui est un truc magicien total, et qui s'installe à l'intérieur pour que vous ayez que quand vous tapez local.azurestack.portal.com, ben vous arrivez, oh, merde, j'ai Portal Azure et j'ai le back-end de ce qu'a les supports Microsoft en Inde pour moi tout seul dans mon coin. Waouh, ça coûte cher la facture, je trouve.
Ouais,
je sais pas si là je vais péter une certaine bulle, mais c'est évidemment ça coûte cher la facture là.
Mais j'imagine, de toute façon, cette facture-là, elle doit être récurrente. Là. Ils doivent pas le vendre de façon permanente, ils doivent le louer, j'imagine, en plus. Donc,
alors, c'est... effectivement, au travers de la location ou de la vente, oui, ce que tu achètes, c'est le matériel. C'est sûr que le matériel vaut très cher et on n'est pas non plus débile. Hein. Ça, il faut en plus énormément de disques durs. C'est normalement pour monter un Azure Stack ou un Azure SDK, par exemple, c'est 4 disques pour juste un node, puisqu'en fait, à l'intérieur des modules et des nodes, tu as jusqu'à 4 nodes et le maximum de nodes par data center, c'est 16 nodes. Donc, tu t'imagines 16, sachant que 4 vaut 400 000, bah 4 fois 4, 16. Ça vaut 1 million 6 pour en avoir 16. Et ça, tu as à peu près un équivalent d'un 25% d'un data center de Microsoft. Ça te donne évidemment la possibilité de te croire pour Microsoft, mais t'es pas Microsoft. Donc là, le but du jeu, tu te dis, waouh, ok, waouh, ça me commence à me faire mal à la tête parce que là, comment ça fonctionne tout ce truc? Donc, faut que tu l'intègres à tout ton système interne, faut que tu l'intègres à tes firewalls, faut que tu l'intègres à tes systèmes. Puis là, on s'aperçoit que si tu veux un cloud privé, faut qu'il soit privé. Puis ça me fait rire. Parce que ça, c'est comme le fait de dire, au fait, je me connecte comment sur Internet, moi? Est-ce que je suis privé? On l'avait fait dans le dernier épisode. Ah oui, non, c'est vrai que je passe par Vidéotron, mais je suis pas tout à fait privé, puisque là, pour le coup, si je sors, lui, il sait où je vais. Puis, ah, mais je peux prendre un VPN. Ouais, je viens de le dire. Si on est Five Eyes, Neuf Eyes, 5, 9 ou 15, on peut pas. Mais VPN, ça veut dire que tu sors quand même de ton truc et tu vas sur Internet. Donc là, quand évidemment Microsoft, AWS, c'est pareil, te dit, bah ouais, mais vous prenez Azure Stack, si vous voulez être vraiment privé pour être privé, bah, il faut installer ExpressRoute. Oh, je l'avais pas vu venir, celle-là. Ah ouais, il faut que j'achète $400,000. Mais en même temps, tu me dis que pour faire un quark-x-quark, c'est-à-dire de me brancher dans, OK, ton data center avec une sorte de gros câble, qui évidemment va pas faire 200 km entre les deux hubs, évidemment entre mon data center et le tien, et celui de mon provider, parce que il y a un man in the middle, c'est mon provider. T'es en train de me dire qu'il faut que je me mette un ExpressRoute en plus qui me coûte une beurrée. Qui évidemment, là, lui, par contre, tu sors plus sur Internet, t'es vraiment réseau local. Donc là, on commence simplement, quand tu dis « Bonjour, monsieur le monsieur, Je voudrais un Azure Stack. Alors, peut-être 4, 5, 8, 4, 8, ça passe par 4. Hein. 4, 8, 12, 16, évidemment, nodes. Donc, admettons, on va prendre 4. Je vais prendre ExpressRoute. Faut que je m'instruis à mettre mon ExpressRoute en marche et en place, qui est loin d'être simple, mais bon, qui se fait quand même assez bien maintenant. Faut que je comprenne comment le ExpressRoute fonctionne. En plus, si je suis multi-région moi-même, avec d'autres data centers dans les pays, si je suis dans un même pays, ça va quand même pas si mal. Mais si je commence à être dans 3 ou 4 pays, waïaïaï. Parce que là, ça sous-entend qu'il y a des ExpressRoute qui vont aussi spirer et faire du peering entre ExpressRoute. Mais là, tu te dis, putain, ça va me coûter une blinde en réseau parce que ExpressRoute, c'est loin d'être gratuit. Et là, tu te dis, OK, puis là, je suis privé ou pas, monsieur? Oui, mais... Ah bon, il y a encore un mais. Vous savez qu'à chaque fois qu'on dit un mais, tout ce qui est avant, c'est un peu de la marde, non? Vous vous rappelez de ça? Ah, OK. Et c'est quoi le mais? Bah, le mais, c'est que pas de bol, t'es obligé qu'on soit branché sur un tenant de ton tenant Azure. Parce que si ton tenant Azure dans le cloud n'est pas branché, comment veux-tu que ton Azure Stack fonctionne? À moins que tu te mettes un ADFS, tu gères toi-même ta fédération et tu gères toi-même ton AD Connect à l'envers, on va dire, et qu'il soit que du cloud, ça se met. Mais même là, il refuse. Le mode déconnecté en tant que tel, comme il le précise, n'est pas un vrai mode déconnecté parce que, et pour ouais. une seule et unique raison, je te laisse, Nico.
Ouais, ben c'est ça, c'est Azure AD, qui est la dorsale.
C'est la dorsale, mais pire, c'est même pas ça. C'est qu'ils sont obligés de brancher ton Azure Stack sur une subscription de cet Azure AD. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de te facturer ce que tu consommes. Ah ouais, mais là, vous me l'aviez pas dit.
Là, je me fais plus, là.
Ouais, mais là, vous me l'avez pas dit, c'est plus privé, là. Je suis plus déconnecté, je suis quand même connecté. Oh oui, mais que Azure AD. Puis après, que sur la consommation. Bah oui, mais si j'ai une consommation. Oui, mais t'as un ExpressRoute, tu sors pas, t'inquiète, t'es dans notre data center. Ouais, mais votre data center dans votre ExpressRoute, votre Azure AD, elle est où? Elle est aux États-Unis. Ouais, mais ça va changer un petit peu pour les prochaines années. T'inquiète, on est en train de travailler sur l'affaire. Donc là, évidemment, là, tu commences à comprendre que, bah alors, c'est quoi mon gain? Ah bah mon gain, t'achètes Portal Azure, mon pote. Eh, hey, ça vaut le pognon et ça vaut tout ce que je viens de te dire. Ouais, mais attends, le Portal Azure, j'achète quoi? Bah, en fait, l'avantage, c'est qu'après, quand tu installes évidemment ton Azure Stack et que tu arrives à l'installer et qu'il va te coûter évidemment 400 000 pour 4 nœuds, je rappelle, puis que tu arrives à le mettre en place, il faut que tu arrives à trouver les gens pour te le mettre en place. Ensuite, il faut que tu arrives à pas avoir les problèmes de politique interne pour évidemment que tu joues sur les tours de bébel des autres. Donc, le TI, les devs, la partie réseau, firewall, sortie interne, le ExpressRoute et tout ce qu'on vient de dire si tu veux vraiment quand même un truc assez propre. Puis là, à partir de là, pour peu que tu as fait évidemment l'erreur, comme tout le monde le fait, ouais, mais moi, je veux simplement que tu arrives dans mon Azure Stack avec un VPN. Hein? Allô? Ben non. Déjà, quand tu me demandes de mettre un VPN pour aller dans Azure Portal Public, où je dois rentrer dans un réseau parce que j'ai un poste entreprise qui fait que je rentre dans un réel, mais je ressors pour re-rentrer, sachant que je ressors pour rentrer parce que tu veux que je sois dans un VPN pour aller charger azureportal.com, c'est déjà tellement stupide, ça, parce que c'est les bretelles, ceintures, Kevlar et compagnie qui servent à rien. Là, tu es en train de me dire qu'en même temps, avec l'Azure Stack qui est déjà à l'interne, avec ton réseau interne dans ton VPN de toute façon, parce que tu m'as déjà demandé d'être dans ta machine, puisque ma machine... d'entreprise a déjà ton VPN qui va se relier dans ton réseau à toi. Et dès que je suis dans ton réseau local, ton ExpressRoute, c'est ton réseau local. Et ton ExpressRoute ne ressort pas sur Internet et va dans le data center Microsoft. Donc, tu n'as pas besoin. Mais là, tu me redemandes. Oui, mais là, on va se garder on-premise. Oui, mais quand je veux aller sur le portal Azure. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse éventuellement... faut qu'on fasse une sortie quelque part. Donc là, le truc commence à se dire, oui, mais là, je ne sais plus où je suis. Là. Je suis sorti, je suis rentré, je suis chez toi, je ne suis plus chez toi. Comprenez que ça devient totalement débile parce que à un moment donné, il faut que ça soit facturable. Parce qu'évidemment, Microsoft n'est pas idiot. La notion de pouvoir avoir le marketplace et d'utiliser la licence. Parce qu'ensuite, c'est quoi? Prenons les mots, ça va encore fâcher. Et c'est de la licence. Vous n'achetez pas un Windows, vous achetez le portal Azure. La licence du logiciel qui tourne derrière le gros paquet de machines que vous achetez. Et pour ça, pour acheter la licence, ils vous disent pas qu'ils vous vendent la licence parce que ça fait des milliers de codes et que ça fait 10 ans de recherche et que c'est normal et que ça coûte cher et que c'est tout. Ils disent non, consommez, mais ce que vous consommez, on va vous le facturer en location. Pour ça, vous devez vous connecter à votre Azure public. Et comme vous devez vous connecter à votre Azure public, oui, avec votre ExpressCloud, vous avez quand même une connexion et une dorsale qui est évidemment là. Donc, c'est là où le cloud privé aujourd'hui a pour moi, comme on dit dans le côté box, là, dans la box et dans le jeu, on est arrivé dans les cordes. Là, ça y est, on est dans le coin, là. Et là, on peut plus aller plus loin. Faut arrêter à un moment donné, faut faire un choix. Je pense que ce choix a une volonté que certains veulent juste checker comme un antivirus pour avoir son cloud privé à l'intérieur. C'est sûrement peut-être rassurant pour d'autres, mais c'est tellement compliqué et complexe à installer ou à gérer ou à manœuvrer. Parce que là, on commence à devenir un peu plus compliqué, à savoir que, et c'est là où après il faut être clair avec Azure Stack, Outpost et compagnie, c'est que qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur de son stack privé? C'est quoi le but ultime? Alors, il y a des gens qui me disent, moi, je veux storer mes affaires. OK? Mais tu sais, pour ça, tu fous un SAN à l'intérieur de ton data center, tu mets un ExpressRoute au travers de tout ça, et tes clouds, va aller visiter avec même des proxys, des jumpbox ou des architectures hub and spoke, et ça marche aussi bien. Je veux dire, si c'est du data, c'est du storage pour du storage, fais-toi un putain de hub and spoke ou un Elastic ou un data lake ou un peu importe, mais toi, data lake, on peut monter jusqu'à du 50 tera. T'as pas besoin d'un stack pour autant. Et ton data lake, tu peux le mettre dans le data center canadien. Tu sais, ça change pas vraiment grand-chose au travers d'un point. Alors après, des fois, on me dit après, non, c'est toutes les VM, c'est toute la partie machinerie qu'on veut pas qu'il aille dans le code public. Là, coup de bol, le stack permet effectivement d'être beaucoup plus compatible avec le monde IaaS, et le monde IaaS est intégré presque built-inement là-dedans. Mais quand on commence à me dire, ah oui, mais je voudrais aussi faire du web service ou du PaaS. Ah, je voudrais faire du SQL, faut que nos databases y soient là-dedans. Ah oui, tu peux, mais c'est à toi de le maintenir. Ça veut dire que Microsoft te donne la recette pour faire que là, tu vas jouer Microsoft. Donc, ton portal, du côté IaaS, c'est facile parce que c'est simplement que des images et des ISO et toi, tu t'auto-adaptes avec des ISO. Mais tes fameux offers et tes fameuses subscriptions que tu vas générer pour tes clients qui sont tes gens avec qui tu vas travailler, qui sont en fait tes propres gens, c'est toi, tu vas jouer Microsoft et eux vont aller comme si qu'ils jouaient à l'intérieur. Quand tu passes en PaaS et que tu passes évidemment au web service, là, Microsoft, il ne te donne pas une recette tout fait maison. Tu dois fabriquer ton back-end toi-même. Et même pire, c'est que Microsoft enlève sa SLA ici et il te dit, tu es responsable des updates de tes trucs, donc tu dois aller développer ta fameuse machine SQL Server pour offrir en PaaS ton SQL Server à tes gens. Tu dois aller monter tes serveurs pour aller offrir ton web service, pour aller offrir ta web app à tes gens. Et toi-même, tu dois aller les maintenir pour ça. Donc, qu'est-ce que vous changez comme gain en termes de temps, de personnel et de coût?
Vas-y, Nico. Ouais, je vais rajouter un point très important parce qu'il y a un problème de perception dans ce que j'entends. C'est parce que là, tu as parlé des couches les plus basses. IaaS, ça va. PaaS, ça accroche. Mais en SaaS, il n'existe plus, il n'y a plus rien. Là. C'est supposé être le néant rendu là.
C'est supposé être le néant, mais ce n'est pas le néant. Tu peux le faire. Mais c'est à toi de tout setuper en back-end. Et là, Microsoft est très clair. Ça veut dire qu'en fait, tu vas utiliser le IaaS à l'intérieur du stack pour te fabriquer ton SaaS que les gens vont aller se consommer. Mais là, tu ne redeviens plus cloud privé. Tu redeviens toi-même le maître de tes machines que tu faisais et tu ne changes rien de ton on-premise. On revient à la mode des années 2000-2010. C'est toi-même qui redéveloppe toutes tes affaires. Alors oui, avec les nouveautés de Microsoft, avec le fait que c'est peut-être un peu plus built-in, mais croyons pas que c'est de la magie et que tout s'installe super bien comme tout ce qu'il faut avec les modules. Il n'y a rien qui s'installe super bien au complet. Là, ce serait la fumisterie de la licorne de vous dire tout s'installe, hein, tout bouge, tout change, tout fait. Je peux vous l'assurer, c'est même pour s'installer dans une registrie ou même pour avoir des changements dans Windows 10, il n'y a rien qui est fait de mois de janvier, vous êtes au mois de juin, il y a des trucs qui ont été bougés avec les dernières mises à jour. C'est pareil pour Azure et compagnie. Donc, à l'intérieur même de ce genre de choses, en plus, comme il y a peu de monde, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 350 stacks installés à travers le monde, et l'équivalent de, je crois, pas loin de 270 ou 280, je voudrais pas dire de bêtises, sur AWS Outpost. Antos, je connais pas les chiffres, je pourrais éventuellement te les redonner si tu voulais me faire, mais Antos, je les connais pas assez. Donc, tu sais, c'est quand même peu, parce qu'évidemment, qui peut acheter ça, à part un gouvernement, à part un État, à part éventuellement des énormes grosses entreprises comme des entreprises bancaires qui voudraient vraiment basculer quelque chose de précis, ou une énorme entreprise éventuellement assimilée étatique, comme on peut l'avoir évidemment au Québec, comme, je sais pas moi, du Québec, la SAC et compagnie. Donc, je veux dire, il y a très peu de monde qui peut faire ça. Donc, après, la technologie ou la technicité pour pouvoir le faire, ou d'avoir les gens qui ont évidemment en plus les connaissances, c'est déjà tellement dur pour les gens de comprendre comment fonctionnent les layers au niveau du cloud public. Tu t'imagines qu'arriver à un cloud privé, à partir de ce moment-là, puis là, je vais faire exprès pour faire perdre les gens total. Si tu me permets, je vais me prendre une minute pour m'éclater deux secondes pour leur dire, réfléchissez-y. Deux secondes de là où on en est. Vous partez de votre machine à vous en tant que votre connexion VPN et on va dire que comme si vous étiez dans le realm de l'entreprise qui a installé votre stack. Mais votre stack lui-même est installé dans une énorme baie qui lui-même, en fait, la baie à l'intérieur, c'est un Hyper-V 2016 qui est installé. Mais cet Hyper-V 2016, il est lui-même virtualisé comme Zen. Ça veut dire que vous allez hyperviser, donc vous allez mettre des VM à l'intérieur de cet Hyper-V. Et ces VM à l'intérieur de cet Hyper-V, c'est ça le cœur noyau du back-end, en l'occurrence d'Azure, que vous avez à vous à l'intérieur. Quand vous avez un node, quand vous avez AZ, Azure Stack SK, donc le fameux SDK kit, là, le Azure Stack Development, qui est un node, quand il s'installe quelque part, quand vous devez l'installer vous-même sur un node, sur une machine, ce qu'il fait, c'est qu'il installe 22 VM à l'intérieur même d'un Hyper-V qui, quand il reboot, va rebooter sur sa VM majeure, qui elle-même va ensuite jouer le hub entre une VM qui va jouer le rôle de DNS serveur et de résolveur, une autre VM qui va jouer, donc vous avez des noms, hein, EZ quelque chose, EZ machin, EZ truc, EZ bidule, qui fait que vont gérer, il y en a une qui gère les IaaS, il y en a une qui gère les noms de domaine, il y en a une qui gère les offers. Tout ça, c'est de la magie parce qu'en fait, Microsoft a totalement opérationnalisé tout ce qu'il a fait en couche. Puis ça, c'est des mouvements qui se passent au travers des machines. Mais si vous y réfléchissez un peu plus dans le stack, et je reviens pour essayer de vous y perdre, ça sous-entend qu'en plus, vous avez un fork. Et là, vous n'avez pas l'écran. C'est vrai que Nicolas me voit, mais moi, vous n'avez pas l'écran. Donc, un split en deux qui se fait entre eux. Ah ouais, mais cet Hyper-V, je peux pas y avoir accès en tant que machine, parce que ça, Microsoft vous l'en empêche, surtout pour l'Azure Stack Hub, qui est le vrai nom Azure Stack Hub professionnel, production en fait. Parce que l'Azure Stack SDK, c'est vraiment l'Azure Stack un node de développement. Puis lui, en plus, quand vous l'avez installé, s'il y a des mises à jour, vous devez le désinstaller et le réinstaller. Que l'Azure Stack Hub est quand même assez sympathique. Quand lui, évidemment, il se fait des updates, il y a une sorte de vacuum de tout update. Il arrive normalement à s'updater quand même assez tranquillement. Mais c'est toute une patoune qui se fait derrière. Donc, vous comprenez bien que quand vous allez booter, ou en tout cas, quand cette grosse machine boot sur son Hyper-V, boot sur cette VM, et va ensuite booter pour aller vous montrer que là, ça se forque en deux affaires. Il y a une affaire où vous allez avoir admin portal azure.com. Donc, admin, en fait, c'est local admin portal.com. Puis là, vous dites, bah, c'est quoi ça, le admin portal? Attention, c'est pas l'admin de l'Hyper-V, c'est l'admin des VM qui sont dans l'Hyper-V. Donc, ça, c'est l'Indien que quand vous appelez votre support dans votre code public, bah là, c'est vous. Vous voyez les subscriptions, vous voyez les offers, vous voyez le marketplace. C'est à vous de fabriquer le back-end du marketplace pour dire, OK, mon petit ami, je te donne telle subscription, je te dis combien tu as de offers. Bah, les offers, c'est OK, tu as le droit de monter tant de bécanes, tu as le droit de monter tel type de machine, les sizes de machine. Tu développes tout ce qu'a développé Microsoft pour dire comment il le rend elevability, le fameux GA, au travers de ses data centers. C'est à toi de le faire. Faut que tu te fabriques la totale. Faut aller que tu te fabriques les ISO. Faut que tu ailles les chercher les ISO. Faut que tu te les mettes en interne. Sinon, il faudrait que tu restes connecté dans le marketplace. Ah oui, c'était cloud privé, au fait, hein. Oui. Non, bref. Donc, tu vas te les prendre, tu te les download, tu te les fabriques. Si t'en veux à toi tout seul, tu peux. Mais faut qu'ensuite tu prennes tes VHG et que tu te les recolles, évidemment, dans ton marketplace. Faut que tu te fasses tout un petit binou comme ça. t'as développé tes offers et tes subscriptions, puis là, tu vas dire, OK, bah, à partir de là, le gars qui va aller se connecter désormais maintenant dans mon local azureportal.com, là, ça devient le front-end que vous avez l'habitude de connaître, qui est Portal Azure, azureportal.com, mes côtés, évidemment, cloud privé. Et là, lui, bah, l'utilisateur interne va avoir le Portal Azure, mais le Portal Azure local de votre cloud privé machine, qui là, il va lui dire, bon, bah, écoute, tu as le droit d'utiliser tel et tel, bah, tu as accès, je sais pas moi, admettons, je vous dis des bêtises, une vingtaine d'ISO différentes entre Windows, Linux et compagnie. Tu as le droit à, je sais pas moi, 10 sizes de machines voulues parce que... Comme vous avez que, par exemple, admettons que vous avez qu'un 4 nodes, bah vous allez dire 4 nodes, purée, je peux pas aller au-delà de combien? 650 VM. Ah, au-delà de 650 VM, je suis fait? Ah, bah oui, t'es fait parce que les 4 nodes, je peux pas augmenter les disques. Marche pas. T'en veux plus? Faut te rajouter des nodes. Si tu veux un 16 nodes, on peut monter jusqu'à 2600 VM. Ah, ouais. OK. Donc, mais si je prends éventuellement un PAS, ah, bah, t'en auras moins encore, parce que tu vas évidemment prendre sur le side disk de ce qui est installé, parce qu'il n'y a pas de magie, il faut bien qu'on les installe et qu'on les fasse. Donc, vous comprenez en plus que tout le réseau qui tourne autour de tout ça, à l'intérieur de ça et de ces VM-là, et puis là, je ne vais pas aller au-delà de ça, parce qu'après, ça va devenir vraiment trop compliqué, mais vous imaginez que votre public IP, que vous-même vous générez à l'interne de vos codes privés, est un private IP que vous avez à l'intérieur même de votre réseau. Ça commence à être cool et drôle parce que tu te dis, ah oui, au fait, c'est quoi mon public IP? Bah, c'est le 192 machin parce que c'est ton private IP à l'intérieur. Donc, c'est toute une autre organisation qui est faite pour, et là, je veux quand même, pour tout ce que je viens de dire, puis je vais repasser la parole à Nicolas, c'est de dire, quel est vraiment mon but et mon goal de faire tout ça? Parce que ça fait quand même, dans tout ce que je viens de vous expliquer, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances. Je me ferais peut-être pas encore beaucoup de copains avec Microsoft si évidemment ils entendaient ce point en disant « Est-ce que Azure Stack ?» Non, Azure Stack répond à certains contextes et autres, mais il faut avoir encore une fois les bonnes personnes au bon endroit et il faut avoir la compréhension de ce qu'on veut en faire au complet. C'est-à-dire... faire du compute tellement privé parce que c'est de la recherche, c'est du truc médical, c'est un système tellement, je ne sais quoi, sécurisé d'état, de militaire, de recherche civile, de je ne sais quoi, de calcul. Je peux le comprendre. Mais maintenant de dire, est-ce qu'éventuellement je voudrais passer la dernière petite... on va dire, je sais pas, application de base ou gestion, bah, j'en ai aucune idée. C'est ça le problème.
Cela étant, il y a aussi tout le contexte, parce que la sécurité de tous ces environnements-là, OK, on a donné une partie qui nous est préfaite par Microsoft, mais le restant de la sécurité, la vraie sécurité qu'on doit gérer là-dedans est à notre charge comme opérateur de ces éléments-là. C'est nos processus, nos affaires, nos approches qui viennent influencer la sécurité même de ce Azure Stack-là, si on prend dans le cas d'Azure.
Oui, oui. Puis en même temps, il faut comprendre un dernier point important, c'est que par exemple à Outpost, pourquoi AWS avait du mal à travailler dans des endroits comme le Canada, par exemple, ou même en Europe? C'est parce que, par exemple, toute la partie hardware et managing du hardware, c'est AWS qui le gère. Alors, là, pour Outpost, c'est un gros fail pour dire que tu es quand même autonome, parce que là, évidemment, il dit « Ah non, 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 on vous installe quand même on-premise, mais c'est nous qui gérons. » Ouais, mais là, c'est plus privé. Si tu es dedans, c'est comme si tu me disais « Bah écoute, c'est quand même ta maison, mais je garde les clés et je te dirai comment utiliser le frigo. » Parce qu'évidemment, c'est pas le fait. Donc ça, évidemment, c'est le problème. Azure Stack et Anthos sont pas managés par le provider. Donc évidemment, c'est toi-même qui l'installe, mais avec tout ce que ça comprend. Donc là, par exemple, pour Azure Stack, encore une fois, c'est Cisco, c'est Dell, c'est d'autres qui viennent évidemment t'installer là-dessus, avec en plus des règles où il faut comprendre que tu as des règles où tu as un coût aussi d'install, tu as un coût aussi de maintenance, tu as un coût aussi où c'est important qu'il faut le prendre parce que personne veut le préciser. Mais Azure Stack a aujourd'hui, depuis qu'il existe, moi, ça fait maintenant 3 ans que je le connais. Ça fait à peu près 6 ans qu'il existe, enfin, depuis les années 2013-2014, dans ses premières prémices. Il faut savoir qu'on est rendu à la version 20.08, même un petit peu plus pour une 21. Je crois qu'il y a une version 21 qui est sortie cette année. Il faut savoir que pour la partie matérielle, Microsoft s'en cache pas. C'est 5 ans. Donc, quand tu l'as acheté, au bout de 5 ans, faut que tu te poses la question si tu veux en racheter un. Et je parle au niveau matos, avec tout ce que ça comporte. Est-ce que tu es capable d'avoir cette vélocité, sachant qu'on a encore dans des fois dans des états des choses qui tournent depuis 10, 15, vers, voire même 20 ans? On rentre dans un monde cloud où même eux, même le matériel, tel à aujourd'hui qui sont les Hyper Edge qui sont installés pour le stack, ils disent nous, on n'a qu'une garantie de 5 ans, voire 6 ans, mais maxi. Parce qu'on n'a peut-être même pas le distributeur taïwanais qui nous redonne le silicium adéquat ou la machine adéquate, ou j'aurais pu la carte mère ou la barrette mémoire que tu m'as demandé, on redevient encore dépendant du matériel qu'on achetait. Donc la notion hybride, puisque c'est vraiment notion de vouloir faire du basique et du on-premise hybride au niveau des ressources, il faut se poser réellement la question, à savoir, qu'est-ce qui est réellement hybride ? Qu'est-ce qu'on veut encore protéger là-dedans ? Ce qu'on veut protéger, c'est du data. Si c'est du data, ben mettez un SAN, mettez une grosse putain de bécane à l'intérieur de votre data center et qu'il soit à plat par l'accès à des VM où elle va aller choper et mettez de l'intelligence à choper ça sur des snapshots de données ou des points comme on le fait avec le Data Fabrics ou avec d'autres. Et allez computer ça dans le cloud public et autres, redescendez, re-sauvegardez ça dans un côté. Et tout ça dans un TLS 1.3 chiffré, et avec des disques chiffrés en ligne, et avec des clés que vous allez gérer en BOI ou en BOK voulu. Et puis ça, vous l'avez. Ça y est, vous avez résolvé déjà 80% de votre patente sûrement de ce que vous voulez faire. Je ne suis pas persuadé, honnêtement, avec du multitenant en plus, qui est compliqué à faire quand on a de la fédération en plus avec Microsoft. Sur tout ce qui on amène cette histoire de fédération, c'est encore une vraie catastrophe si on rajoute ça, parce que ça marche pas aussi facilement et aussi compréhensiblement là-dessus. Puis si on décide en plus, pour finir, et je mets la cerise sur le gâteau, à dire j'ai en plus une web app ou une application interne privée qui ne doit pas sortir, mais qui doit jouer avec de l'OpenID Connect ou éventuellement de l'autorisation avec de la fédération SSO à l'intérieur d'un cloud privé ou à l'intérieur d'un Azure Stack, bah là, je vous le dis comme Taken ou comme Liam Neeson dans Taken 1, bonne chance. C'est vraiment bonne chance. Là. On est vraiment dans du très, très compliqué. Là. C'est vraiment du très compliqué, du très haut niveau à comprendre toutes les bébelles et à savoir ce qu'il en est. Je pense qu'effectivement, la partie cloud privé sur l'extend du public, c'est là où je pense que il faut impérativement que la partie partie basique public cloud et les services on-premise doit être vraiment gérée correctement en amont sur du refactorisation de qu'est-ce que je voudrais réellement faire. Et c'est ça, quand on parle de lift and shift ou de lift and reshift ou de lift and refactor, en espérant que ça soit pas la prochaine truc là, parce que je dois décider pour peut-être la prochaine rencontre, mais pour d'autres affaires de migration ou de backup. Mais la notion d'un data center en tant que tel, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on a bien refactorisé l'affaire? Je l'ai reprécisé d'ailleurs dans ce film internet, mais je l'ai surtout précisé dans la dernière, je crois, dans la dernière, dans le dernier podcast. C'est prenez pas ça comme un animal de compagnie. Encore une fois, le cloud native ou le cloud public à aujourd'hui, c'est du bestial et on doit gérer le côté conceptualisation de comment on fait nos choses ou comment on les déploie. Donc, si on arrive à faire ça, on enlève toute la partie, évidemment, de est-ce que j'ai envie encore de m'ennuyer pendant 5 ans avec du matériel que je suis pas sûr que je vais pouvoir maintenir ou que je vais pouvoir changer? Est-ce que je veux dépenser demain 1 million, 1,2 million, 1,6 million pour 5 ans? Est-ce que je veux vraiment gérer de l'express route avec tout ce que ça comporte? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se baser en amont avec vraiment le pourquoi je veux l'amener dans mon data center juste pour dire je peux taper admin local portal azure.com ou admin local portal.com. Pourtant, c'est une vraie belle bébête. Hein. Je peux vous dire que moi, aujourd'hui, j'ai appris tellement avec la SDK parce que ça vous montre vraiment, en plus pour un développeur, comment c'est fait à l'interne. Mais mis à part un trip, évidemment, d'universitaire ou de recherche et de développement, maintenant, le trip de gérer, évidemment, la notion du hybride, honnêtement, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Je dis que je reste dubitatif sur le fait de l'intérêt et de voir tout ce que ça coûte autour à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, au vu de toi aussi, ton expérience.
Je suis dans la même sphère que toi. Je n'ai pas eu la chance comme toi de jouer avec ces choses-là. C'est des jouets qui sont très intéressants et ça me met un appétit de vouloir juste pour jouer avec, juste pour comprendre, juste pour avoir le plaisir de voir la logique et l'intelligence qui a été mise dans ces systèmes-là et de décortiquer tout ça qui a été mis. Oui. Est-ce que je pourrais conseiller le non? Parce que je n'y vois pas d'intérêt. De toute façon, tu as tout décomposé les points qui, généralement, j'utilise pour défavoriser cette approche-là. Parce que sinon, on vient dans le contexte que c'est juste le nuage, c'est juste un ordinateur ailleurs. La réalité, c'est que le nuage n'est pas tout à fait ça. Mais là, on est en train de ramener cette notion-là. C'est juste un ordinateur ailleurs qu'on dépose. Et c'est pas là la plus-value d'un info nuagique. Elle est ailleurs. Il y a une panoplie de questions, mais de toute façon, dans ta présentation sur l'Internet, tu as abordé aussi tout le volet des clouds, ou en tout cas de l'Internet national qui est en train d'apparaître. Et probablement que ces clouds-là vont justement, puis Alibaba est une expression de cet élément-là, de cette espèce de cloud national qui vont être opérés par des opérateurs nationaux au lieu d'être avec des opérateurs internationaux comme on a actuellement. C'est sûr que pour Microsoft, c'est pas intéressant que ça soit dit comme ça, parce que lui, son marché est un marché international et c'est intéressant. Mais là, les questions vont devoir se poser, puis à un moment donné, d'arrêter d'avoir peut-être peur, j'imagine. Je sais pas, moi, je suis pas un cloud native, là, mais tu sais, j'ai du cloud dans les oreilles. Là, ça, j'en ai un peu partout.
Puis en même temps, je t'avouerais que Microsoft, a aujourd'hui, on le sait, et il le dit, bon, peut-être qu'il le change avec le temps au niveau matériel, mais aujourd'hui l'Azure Stack en tant que tel, c'est pas lui qui vend le matos, hein. C'est Cisco, Dell, enfin il y a quoi, il y a 5-6 revendeurs officiels industrialisés et gérés, et c'est pas du tout Microsoft qui vend et qui installe évidemment la partie machinerie. Donc c'est simplement encore une fois la partie effectivement du savoir-faire du cloud builder, donc le fameux cloud builder VDX, qui est la grosse bébelle de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'Azure, autant back-end que front-end, hein, puisqu'il faut le comprendre. Et des fois, quand on pousse un peu plus loin dans le SDK, parce que moi, je me suis permis de le hacker, parce que je travaille avec un gars, j'ai de la chance de travailler avec deux gars, un en Australie et un en Turquie, qui ont fait tous les deux un système où ils ont bifurqué le système pour qu'on puisse installer un Azure Stack SDK, donc l'Azure Developer dans une VM qui normalement ne peut pas se faire puisqu'il y a des tests de bare metal qui sont faits dans les tests du scripting et de l'exécutable qui est fait. Mais comme tout ça, c'est évidemment du .NET et du scripting PowerShell, on peut les bidouiller si on sait où aller et faire des workarounds. Et il y a des workarounds pour pouvoir le faire, pour dire bah, fais pas le test ou fais toujours vrai pour le test. Et donc, ils vont s'installer évidemment dans une E20 V3 qui fait que là, d'un seul coup, tu vas voir ton Azure Stack en vrai dans une grosse VM Azure. Bon, oui, effectivement, dans le cloud public, ce qui est assez drôle d'avoir un Azure Stack privé dans un cloud public. Mais je veux dire que par défaut, évidemment, ça peut te coûter évidemment une blinde parce que les machines sont énormes, mais si tu la fais rouler 24/7, là, mais je veux te dire que ça t'apprend comment ils ont été faits. Et quand je m'aperçois que c'est des packages NuGet, c'est du .NET, c'est des scripts à pu en finir, c'est des VM qui s'en parlent entre elles, c'est l'intégralité de toutes les VM et tous les outils des agents qui ensuite se retravaillent, bah, moi, pour moi, ça, c'est ça la magie. Évidemment, là, je ne vais pas dire que ce n'est pas non plus extraordinaire de voir ça, c'est complètement débile parce que c'est évidemment ce qu'ils font en vrai dans le cloud public. Et je me dis que ça, ils le font à 64 régions maintenant et avec tout ce que ça comporte de trucs avec. Donc, je me dis, waouh, les gars, vous êtes dans un autre monde. On est comme Elon Musk avec son Mars, hein, on est dans un autre monde. Comme AWS là-dessus. Mais c'est sûr qu'ensuite, pour le côté du commun des mortels et les communs des mortels des étatiques qu'on a aujourd'hui au Canada ou au Québec et compagnie, se poser la question là-dessus, c'est, je pense, un excès de « je veux ma Porsche dans mon parking ». Là, je veux pas me faire des copains, là, ça c'est certain, mais je veux ma Porsche dans mon parking. Donc, ouais, oui.
Il y en a plein qui aiment ça, les Porsches, fait que c'est sûr que oui, ça va continuer quand même.
Mais, comme je le dis souvent, une voiture, c'est fait pour les autres. Parce que toi, quand tu la conduis qu'un quart d'heure le matin et un quart d'heure l'après-midi, c'est juste pour faire plaisir aux yeux des gens qui passent dans la rue. Donc, c'est sûr que si tu bosses 10 heures par jour, t'es pas dans ta bagnole pour autant. Donc, Le but du jeu d'acheter une voiture qui doit être pour toi un outil de travail et de pair, même si t'aimes une Tesla avec une voiture qui roule en automatique, comme j'ai pu le constater à Toronto, parce que je suis monté dans un taxi où il avait la Tesla avec la conducteur automatique, j'ai capoté. Elle nous a emmené de là où on était de chez Microsoft jusqu'à l'aéroport. J'en veux une. Mais à quoi ça me sert si je l'utilise une fois dans l'année? Parce qu'avec la pandémie, j'ai pris la voiture, ma femme l'a pris 10 fois plus pour sa job que pour moi, peut-être aller une fois par mois. À quoi ça sert? Elle sert que pour les autres. Donc, c'est la même chose à se poser la question. Est-ce que là, pour l'Azure Stack, et je parle pour l'Azure Stack, l'Outpost et Anthos, parce que je veux pas mettre Microsoft dans le truc, pour le cloud privé, est-ce qu'éventuellement, on se pose les bonnes questions au bon endroit, au lieu éventuellement de résoudre un problème par un autre problème et qui va nous régénérer d'autres problèmes? Il va nous générer d'autres problèmes qu'on n'aura pas les gens, on n'aura peut-être pas les compétences, il faudra le maintenir, il faudra savoir que dans 5 ans, c'est obsolète, ou il faudra le changer, il faudra l'updater, il faudra le gérer. Et on se remet des USLA là où normalement, on fait que tout depuis 5 ans, c'est dans le cloud public qu'on doit le faire et que c'est les cloud providers qui doivent le gérer pour nous. Et que la seule chose, c'est crypter vos données, crypter vos disques, prenez vos propres clés, gérez vos propres HSM, et faites vos propres jumpbox à ce niveau-là. Vous corrigez presque 80% de vos demandes. Et quand il y a vraiment un truc qui doit être privé, bah achetez-vous un putain de baie chez Dell, mettez-vous le logiciel avec un SAN à l'intérieur, même en SCSI, et puis faites vos calculs à distance. Les liens peuvent être possibles. Vous pourriez même monter dans une VM énorme via VPN directement sur ce SAN. Et vous réglez aussi votre problème en même temps. Donc, il y a plein de possibilités pour pouvoir le contrer, tout ça.
Tout à fait. Puis on va conclure là-dessus.
Oui, effectivement.
Super intéressant,
merci,
encore une fois. On a abordé, j'ai l'impression que ça va soulever encore des questions chez nos auditeurs. Peut-être ça va conditionner le prochain épisode aussi. On verra. De toute façon, c'est toujours très intéressant. Fait que sur ça, je te souhaite un bon week-end parce qu'on enregistre le vendredi. Oui. Et à la prochaine.
À la prochaine. Merci encore pour ton invitation, Nicolas. Vraiment au plaisir. Bye bye.
Merci.